Le train roulait encore lorsque Victor Singer a sauté sur le quai. Du wagon, démarrant lentement sa femme et ses trois gosses. Il en prend un à chaque main, les traîne. Parfois, il tourne la tête. Sa femme suit, le plus jeune sur les bras. Bon sang pour un jour de fête! Il s'empile dans un taxi. Les gosses crient, pleurnichent, posent des questions. Et Victor en gifle un. Allons bon, un encombrement. Il tire sa montre. Quand la dépêche est arrivée, on se mettait à table avec le beau-père. Pas de train avant 4 heures. Victor, il a eu le temps de ruminer. François, de quoi crois-tu qu'il est mort? Est-ce que je le sais? Pour ce que je le connaissais, ton frère, j'ai autre chose à penser. Un des gosses a des coliques, l'autre tous. Faudrait les coucher vite. Eh bien, j'irai seul chez Lucienne, dit Victor. Tu ne passeras pas la nuit. Oh, fous-moi la paix. Il étouffe, déboutonne son pardessus, s'enfonce dans son coin et cherche Albert dans ses souvenirs. Quand le taxi s'arrête devant leur maison, il fait descendre promptement sa smala, lance au chauffeur 263 rue de Belleville et colle contre la vitre son visage anxieux. Le bar du télégraphe, enfin, il se jette, sa sœur est là. Lucienne, comment est-il mort? Oh, répond-elle, c'est toute une histoire. Paola a tiré les rideaux et assez de lumière pénètre dans la chambre. Elle n'y est pas seule et ne craint plus de regarder le cadavre. Même elle se rapproche et pose sur son front un long baiser. « Vous pourrez le photographier ?» chuchote-t-elle. Gaston installe sur un pied le Kodak que lui a prêté Paola. Il se penche sur le viveur, à 3 reprises presse le déclic et replie l'appareil. Il opérait un peu au petit bonheur. Mais il conservera, lui, de son oncle, une image fidèle. Le visage semble plus sombre, terreux, creusé secrètement. Les yeux s'enfoncent, les pommettes saillent, les narines sont pincées, les lèvres entrouvertes deviennent violacées. Au calme du sommeil succède une expression douloureuse. « On descend !» lui souffle son père. La joue qui repose sur l'oreiller a une couleur lie de vin. Elle est piquée de points rougeâtres. À jamais, dans l'ombre, cette joue. L'autre, la lumière du crépuscule, y glisse, s'accroche aux poils de barbe, aux moustaches, et bosse, accuse l'arête du nez à la Bourbon. De minute en minute, elle change, faiblit, semble cependant vouloir disputer à la nuit cette forme immobile. Bientôt, Albert sera enfermé dans un cercueil. Gaston se baisse, ah, qu'il voit son oncle une dernière fois. Le verrait-il demain? Ce serait un autre visage. Et d'heure en heure, davantage, celui de la mort. Il veut se redresser. Non, il lui faudra embrasser ce front, une chair glacée. Il pose un doigt sur cette bouche, l'y laisse, le retire brusquement, comme si ses lèvres noires grinçaient. La première fois qu'il reste seul à seul avec un mort. Un vertige, mais il se ressaisit. Un mort là devant lui. Moins qu'un arbre, moins qu'un chien en vie. Une chose, un objet, ça n'a aucun nom, insensible ainsi qu'une pierre. Cette dépouille, il la bourre de souvenirs, comme de chiffons à mannequin. Il a été, Albert, un poupon criard, un gamin vif, un jeune homme, Ces espèces de métamorphoses sont toutes accomplies. Mais un vieillard décrépit ne sera point. Sa forme dernière, tout au moins encore humaine, la voici, combien évidente. Ah! Gaston fait un geste. La vie, elle l'emplit. Et chaleur, odeur, vibration, tandis que son oncle, sur ses lèvres jamais la salive, dans ses yeux les larmes, la sueur sur son front, jamais plus rien ne jaillira de ce corps, rien. Seuls les mouvements lents de la mort qui pénètrent cette chair d'invisible transformation. Sur le seuil du bar du télégraphe, Lucien embrasse son frère. « On doit reprendre courage, » répète-t-elle. « Ne t'inquiète pas. Demain, si Rose-Édouard fait des histoires, je serai avec toi. Tu diras à Ferdinand que je me surmonte. » Dans le soir qui tombe, Victor Singer descend la rue de Belleville, où gosse il vadrouillait derrière ses grands frères. Albert, vieux frangin, il essuie une larme. Il marche vite, retrouve ses idées. Albert laisse un testament qu'il a lu, un testament juste et en règle. Pourvu que le gros Édouard ne cherche pas des chinoiseries, oh, celui-là avec sa forte gueule, et que son Élise ne souffle pas, comme lorsque la grand-mère est morte, de faire une cérémonie religieuse. Oh, il les enverra promener, carrément, pas de curé. Quant au testament du côté de Lucienne, comme de leur vieille sœur Marthe, pas à craindre d'ennui. D'ailleurs, quelle honte s'il se chamaillait au sujet de l'héritage. Le fisc prendra combien? Il pourrait changer son notaire de la succession. Victor remonte dans un taxi. Lui, ce qui l'unissait le plus à Albert, ma foi, c'était des questions de métier. Et lorsqu'il commençait à parler commerce, c'est que, avant d'avoir chacun une bonne situation, ils avaient traîné à travers toute la France, et même en Belgique, en Suisse. Ce métier de représentant, ça va quand on est jeune. On en garde pour ses vieux jours des maladies d'estomac, des varices, des bronchites et autre chose encore quelquefois. Mais d'une autre maladie est mort, Albert. Des suites de la guerre. Il avait fait des descentes vertigineuses en parachute et s'était décroché l'estomac, paraît-il. Mais comment savoir? En tout cas, ces salauds ne lui avaient pas accordé une pension ni donné la croix de la Légion d'honneur. Victor, sur l'armée comme sur la religion, il a ses idées. Albert était officier de service. Il racontait volontiers que faire des périodes était avant tout lui une distraction. S'il avait reçu la croix, il aurait été le plus heureux des hommes. Ce pauvre vieux, il est mort trop tôt. Et soudainement, Victor pense à sa première femme qui est morte après une longue maladie, voici déjà 4 ans. Si Albert a succombé sans souffrance, Charlotte, oh, la malheureuse, 39 ans, ça aussi, c'est partir trop tôt. Ces 3 gosses, eux non plus, ne jouissent pas d'une santé brillante. De la tête aux pieds, l'homme est vêtu de noir. « Monsieur Robert Singer ?»« Oui, » répond Paola. « Je suis le médecin de l'état civil. Où est le corps ?» Il monte, pénètre dans la chambre. Paola allume, elle ferme les doubles rideaux. Le médecin ôte son chapeau melon qu'il met sur la table de nuit. Puis d'un geste froid, il tire la couverture et le drap et découvre le cadavre. La main gauche repose sur la poitrine, la main droite sur le matelas. Les jambes nues sont repliées, croisées. Il est comme il s'était endormi hier soir, balbutie Paula. Le médecin ouvre le col de chemise, glisse la main, en fronçant les sourcils. Que s'est-il passé? Mon pauvre chéri, répète Paola. Son regard se pose sur le corps, ensuite sur ce petit homme noir et inquiétant qui a le visage d'un juge. Elle lui racontera la vérité, toute, mais sa voix tremble, elle hésite dans son récit, se contredit, se tait, et l'homme lui lance un mauvais coup d'œil. J'avais fait cuire des poireaux dans une casserole d'aluminium. C'est pas ça? Il écrit sur une feuille verte, bif, semble ne rien entendre. Elle joint les mains avec désespoir impuissant. C'était pour le soigner mieux que je lui ai dit de venir chez moi, docteur. Docteur, demande Ferdinand en gémissant, on peut savoir de quoi il est mort? Est-ce d'une embolie, hasarde Gaston? Oh, je ne peux rien vous dire, réplique le médecin. Et il range avec calme son portefeuille. Vous porterez cette enveloppe à la mairie, demain, avant 11 heures. Il met son chapeau melon, descend l'escalier, sort sans prononcer un mot. Ferdinand referme la porte, examine curieusement l'enveloppe officielle. « Dedans, qu'est-ce qu'il y a ?» murmure Paola. « On ne pourrait pas la décacheter. »« Vous avez entendu, je ne peux rien vous dire. Mon Dieu, si la police vient chez moi... » Un coup de sonnette les fait sursauter. « Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ?» s'écrie Paola. « C'est Victor !» dit Gaston en ouvrant. Sur le seuil, il paraît grave, sombre, son feutre noir à la main. « Son jeune frère, Madame Paola !» annonce Ferdinand. Il baisse la voix. « Victor, tu veux monter ?» Ribéroche pousse la porte de son appartement. Sa famille entre, lui aussi. Il entend remuer et s'exclame. « Hé, Fifine, nous voilà !» Elle arrive. « Vous avez fait une chic balade ?»« Oh, ben, il y a une voiture qui gaze, une Pacard, comme celle du roi Édouard. On s'est arrêté à Compiègne. Après un gueuleton soigné, on a fait un tour dans la forêt à pied. Moi, il me faut le grand air. » Une quinte de tout l'interrompit. « Parle pas de temps, recommande sa femme. Je vais prendre ta température. » Il secoue les épaules. « Mais qu'on lui foute donc la paix. Au printemps, il ne se mettra au vert. Quant à ça, oui, la campagne le ravigote. » Il donne une tape à Fifine. « On a bien commencé, 1933, et toi, tu es sorti ?» « Non, mais j'ai reçu une visite, le beau-frère du gros Édouard. »« Et qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» grogna Ribéroche, en dénouant sa cravate. « Oh, il venait te demander un service ?»« L'adresse du gros, son frère est mort. » Ribéroche laisse retomber ses bras. « Albert ?» « Tu es sûr ?» Il s'assied, le souffle coupé. Sa main se crispe sur sa poitrine. Il sent son mal, là, qui n'a pas bougé. Et d'une voix pressée, il reprend. « Mais il est mort de quoi ? Parle, au nom de Dieu !» Gaston Dieulet remonte la rue de Vaugirard. Il se redresse, respire largement. Tandis que Ferdinand et Victor se concertent au sujet de l'enterrement, il va dîner. Où ? Les restaurants ont des plats glaces ternes un aspect louche. Ce sont des gargotes dont la nourriture vous détraque l'estomac. Et c'est bien assez d'y déjeuner en semaine, songe Gaston. Ces passants, pensent-ils à la maladie, à la mort? Non, c'est encore fête. Les amoureux roucoulent, des jeunes gens braillent, des ménages musardent, bras dessus, bras dessous. Et des voitures, et les autobus filent. C'est un tapage comme dans la rue de Belleville à la même heure. Ah, voici un carrefour avec de beaux cafés. Et s'il entrait dans un? Il entre. À toutes les tables, des consommateurs, hommes, femmes, gosses, qui se taisent pour écouter les virtuoses installées sur une estrade. Gaston monte au premier, s'assied à une table, contre une balustrade derrière laquelle il aperçoit la salle du bar pleine de fumée. Il commande une choucroute et... oui, et un demi. Il porte la main à son front. Cet interminable après-midi, son oncle, et la queue sinistre du médecin, sa gueule sinistre, non, oh, non. Cet interminable après-midi, son oncle. Cet interminable après-midi, son oncle, et la gueule sinistre du médecin. Non, il ne s'agit pas d'un rêve. Et cela en bas pendant ce temps. Ils ont ri, ils ont bu, ils ont baffré. Ils sont déjà peut-être à demi-morts, eux aussi. Les sales breuvages qu'ils sirotent, l'air puant qu'ils avalent. Un peu de musique les endort. Gaston voudrait fuir. Il repousse plein de choucroute, grasse et fade. La corbeille à pain. Où il a traîné ce pain? Cochonnerie. Ah, toute la vie, connaître la classe, la pourriture, les hommes, la mort. Surtout dans une grande ville, où toute sa troupe voyage en tas, jouissent en tas, se donnent leurs microbes, leurs vices, leurs haines, leurs maladies. La rue ou l'usine, la chambre d'hôtel ou le logement, surcourt. Et pour être un soir, enfin, étendu sur un lit, comme Albert. Cependant, pas un ici qui songe à la mort. Celle-là foutrait vite le camp. La vie heureuse, la vie. Ils s'imaginent qu'ils en ont encore pour des années. En rentrant à leur domicile, quelques-uns trouveront peut-être un livre de faire part. Non, 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 c'est fait, pas de courrier. Oh, il y en a peut-être qui roulera sous une auto, et hop! Ou demain, dégringolera d'un échafaudage, sera broyé par une machine. Tous et tous qui tapent leur apéritif en écoutant des rengaines célèbres, ils commencent bien l'année, croient-ils. Ouvriers, employés, boutiquiers, ils n'ont pas d'enthousiasme, pas d'imagination. Ils ne connaissent guère l'arrière-volte, eux qui tiennent docilement la main à ces journaux où ils ne savent pas découvrir quelle mort les attend. Gaston se lève, descend, traverse la salle, alors que l'orchestre attaque un air de valse viennoise. La rue a le débraillé des dimanches sur le soir. La tristesse et la souffrance en sont chassées. Tant mieux, songe Gaston. Amusez-vous vite, les copains. Il arrive dans une rue noire, derrière les volets d'une villa, au premier, des raies de lumière bleuâtre. À la brasserie des sports, Gorin a longtemps attendu Ribert Roche. On ne peut pas compter sur lui pour jouer une belote. Il traverse le pont Caulaincourt, le chemin le plus direct quand il rentre chez lui, sans ça. Il se dit qu'on devrait mettre hors de Paris les cimetières, tous. Et il pense à Riberoche, qui depuis un an file un mauvais coton. Les amis commencent à partir. Le papa Olivier, le grand Gabriel, le môme Maurice et aujourd'hui Albert. Pas gai. Lui, ce sont encore gaillards seulement. Faudrait quand même pas qu'ils se surveillent. Boire moins d'apéro et moins de femmes. Les garces, du reste, vous mangez trop de pognon. La bourgeoise a voulu qu'on se retire des affaires, dit-il. C'était trop tôt. Surtout que maintenant, personne n'est assuré de pouvoir vivre de ses rentes. L'État vous grignote votre argent. Quant aux gros financiers, aux les vaches. Vous trouvez des placements sûrs, voilà, voilà. Une pensée subite le traverse. Albert avait acheté, dans le bas de l'avenue de Clichy, un petit immeuble de bon rapport. Un placement pépère, quoi. Et si la famille en demanda un prix raisonnable? Tentez le terrain auprès du roi Édouard. Ouais, il est acheteur. Gaston, dit Victor Ferdinand, on viendra te demain pour te remplacer. Et maintenant, ajoute Victor, on file chez mon entrepreneur des pompes funèbres. Ils sortent. Gaston et Paola veilleront le mort. La nuit est devant eux, longue, lourde, inconnue. Ils s'asseyent dans la salle à manger, en silence. Gaston regarde autour de lui. Paola aime les jolies choses. Sa villa est pleine de bibelots anciens ou modernes, d'objets d'ivoire et d'étranges fétiches nègres. Sur les murs sont accrochés des gravures, des tableaux à sujets religieux, des peaux de serpents, un tapis de Perse, des dentelles.